שלום וברכה, שלום לכולם, שלום שלום, בוקר טוב ושבוע טוב, également חודש טוב, חודש ניסן, חודש הגאולה, חודש תחילת השנה. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue dans notre étude hebdomadaire sur l'histoire du peuple juif. Donc nous sommes dans l'histoire des prémices du peuple juif, la première période que nous traitons, c'est la période du Mishkan. C'est-à-dire la période depuis Moshe, en fait depuis le Pentateuque, depuis la Torah, et jusqu'à la construction du premier Bétamigdash. Nous avons déjà évoqué la première, l'époque du premier Bétamigdash et celle du second Bétamigdash. Nous sommes dans le deuxième chapitre. La semaine dernière, nous avons arrêté notre étude et après la conquête et l'implantation des Béné Israël en terre d'Israël avec Yehoshua. Et donc, nous avons passé en revue l'histoire du Mishkan dans le désert et dans l'endroit qui s'appelait Gilgal. Et donc, nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de cette histoire-là. Am Israël, ça y est, s'est implanté au sein du peuple juif et au sein de la terre d'Israël. Ça y est, nous y sommes, nous sommes en place, nous avons battu les Cananéens qui sont à l'intérieur. Mais ne faut pas croire que le peuple juif est maintenant pépère. Eh bien, pas du tout. Quelle est la situation globale? Eh bien, c'est une situation extrêmement compliquée. Tout d'abord, il n'y a pas à ce moment-là de centralité au sein du peuple juif. Le Ham Israël ne se comporte pas comme un peuple. Nous sommes à ce moment-là véritablement dans une situation tribale. Nous vivons comme des tribus qui sommes en relation les unes les autres, mais il n'y a pas de centralité, non seulement il n'y a pas de gouvernement central, mais il n'y a pas non plus de centralité au niveau de l'éthos qui forme le peuple d'Israël. Nous sommes, chaque tribu, eh bien, un petit peu livrée à nous-mêmes. Alors, on peut le comprendre, évidemment, pour une raison très simple. Chaque tribu, après avoir passé les 14 années de 7 de conquête et 7 d'implantation ensemble, eh bien, maintenant, les tribus font face à leurs problèmes seuls, face à leurs voisins. Car, si dans le livre de Yoshua on a mis en avant qu'on avait réussi à conquérir la terre d'Israël sans trop de problèmes, eh bien c'est une conquête de manière générale. Après, au niveau de la vie au quotidien, eh bien il y avait évidemment des poches de résistance, que ce soit au niveau cananéen, au niveau des différents peuples qui entourent la terre d'Israël et qui ne voient pas du tout d'un bon œil l'arrivée des Béné Israël. Et donc chaque tribu va devoir faire face successivement, si on veut, eh bien aux différentes attaques des différents rois, roitelets, l'homme chané, dirigeants des autres peuples environnants qui vont tout le temps tenter de nous mettre une pression absolument incroyable. Et donc, eh bien, c'est ce qui nous amène à l'époque du livre de Shoftim, à l'époque du livre des juges. C'est un livre qui va s'étaler sur, eh bien, tout simplement près de 369 ans. 369 ans durant lesquels, eh bien, le Mishkan, c'est-à-dire ce qui est censé être la capitale, la centralité du peuple, eh bien, n'est plus à Gilgal, mais a été déplacé à Shiloh. Shiloh, dans la tribu de Binyamin, eh bien, c'est là-bas que se trouve le Mishkan, au nord de Jérusalem actuel. Et donc, c'est là-bas que se trouve le Mishkan pendant 369 ans. Mishkan Shiloh, il faut le dire, est un petit peu différent du Mishkan du Gilgal et du désert, puisque c'est un Mishkan moitié en dur. En d'autres termes, les murs du Mishkan sont en dur à Shiloh, les toits sont toujours en tente, pour dire qu'il ne s'agit pas véritablement de l'endroit final, mais il est quand même vachement plus sédentarisé que lorsqu'il était à Gilgal. Imaginez, à Gilgal, il est resté 14 ans, là on parle de 369 ans, c'est énorme. Et donc, toute cette période de Mishkan Shiloh, eh bien, c'est la période du livre des juges. Alors, oui, j'ai dit Shiloh devait être la centralité du pays, mais ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. La preuve en est, au tout début, je suis ce qu'on appelle Magdim et Tameura, je vais un petit peu trop vite en besogne, mais au tout début du livre de Shmuel, on va voir la famille de Elkana arriver à Shiloh, et c'est peut-être la seule famille, nous dit Razal, qui vient à Shiloh. Allez, il y a encore deux pelés, trois tendus qui viennent à Shiloh. Mais de manière générale, personne ne vient là-bas. On ne se rappelle même plus véritablement où est Shiloh. En d'autres termes, eh bien, ça n'a pas marché en tant que centralité. Shiloh est l'endroit du Mishkan, mais le peuple juif n'est absolument pas centralisé autour de cela. Alors, qui sont les différents dirigeants du peuple juif pendant cette période-là, et comment, et face à qui surtout, vont-ils avoir à faire face? Eh bien, les différents shoftim de cette période-là sont successivement, eh bien, Otniel ben Kenaz, qui vient de la tribu de Yehuda. Nous avons ensuite Ehud ben Gera, qui vient de la tribu de Binyamin. Ensuite, nous aurons un homme qui s'appelle Shamgar ben Anat, qui est très compliqué pour nous. Il vient de la tribu de Lévi, mais il est compliqué pour nous parce qu'on ne sait pas combien de temps il a dirigé le peuple juif, ce qui nous laisse un trou dans la chronologie de cette période-là. Nous aurons ensuite la prophétesse Devorah, qui vient, elle, de la tribu de Ephraim. Nous avons Gidon, qui vient de la tribu de Ménaché. Ensuite, nous avons Avimelech, qui est le fils de Gidon, donc lui aussi de la tribu de Ménaché. Nous avons également un homme qui s'appelle Tola ben Pua, qui vient de la tribu de Issachar. Yaïr Agiladi, qui semble-t-il vient lui aussi de la tribu de Ménaché. Yiftach Agiladi, lui également de Ménaché. Yvtsan, qui n'est autre que Boaz, qui vient de la tribu de Yehuda. Nous avons Elon Zevulouni, vous l'aurez compris, qui vient de la tribu de Zevulun. Également Avdon ben Hillel, qui vient de la tribu de Ephraim. Et Shimon ben Manoach, qui vient de la tribu de Dan. Sans oublier Eli à Cohen, qui est le dernier des Shoftim, qui est Cohen, qui vient de la tribu de Lévi, et qui est le Cohen Gadol à ce moment-là. Voilà 13 Shoftim qui vont donc diriger le peuple d'Israël durant ces 369 années, un petit peu moins en fait, parce que les 369 ans comprennent également une partie de l'époque de Shmuel. Mais disons, voilà les 13 dirigeants du peuple juif. Alors, 13 dirigeants qui viennent de tribus différentes, parce que comme on l'a dit, eh bien, le livre de Shoftim fait état d'un pays qui est divisé, qui n'est pas soudé les uns avec les autres, et qui vont devoir à chaque fois faire face, eh bien, à différentes attaques. Eh oui, différentes attaques. Lorsque vous allez avoir, eh bien, les premières étapes du livre de Shoftim, eh bien, on voit qu'on va devoir faire face à des attaques qui viennent de l'extérieur et également de l'intérieur. C'est-à-dire que les opposants au régime juif, j'allais dire, ne sont pas simplement, eh bien, des attaques intérieures, mais également de l'extérieur. Nous avons le premier de ceux qui va nous attaquer, s'appelle Kushan Rishataim. On vient de loin même pour nous assimiler, pour nous asservir. Ensuite, nous aurons également les Shi'aboud de Amalek et de Ammon et de Moab. Donc, tous ces pays qui entourent Israël, c'était les pays contre lesquels nous avions déjà eu affaire dans l'époque de Moshe, ils reviennent à ce moment-là. Nous avons également les Knaanim qui n'ont pas été complètement éradiqués, dans le nord d'Israël particulièrement, qui vont continuer à nous faire des problèmes. Nous avons évidemment Midian qui devient un des peuples les plus belliqueux avec Israël. Et nous allons retrouver évidemment dans le livre de Shoftim les Plishtim, les Philistins. Et là, eh bien, nous sommes obligés de mettre en avant quelque chose qui est quand même très important. Eh bien, c'est que tous ces différents peuples sont en avancée technologique face à Israël. En avancée technologique, puisque les hommes du littoral, sous l'influence des Plishtim qui venaient de la Grèce et qui donc ont apporté avec eux une technologie venant d'ailleurs, eh bien, ce sont des hommes qui maîtrisent le fer. Alors que les Bnei Israël, eux, s'en sont encore réduits à des épées en bronze. Et donc, le fer étant beaucoup plus puissant, eh bien, lorsqu'il y a contact entre les deux, eh bien, ce sont ceux qui maîtrisent le fer qui sont évidemment avantagés. Et donc, eh bien, à ce moment-là, la situation est compliquée. Chaque tribu va devoir faire face à son ennemi. Alors, quand on lit le livre de Shoftim, eh bien, cette période est une période où, eh bien, on peut voir un schéma qui est redondant et qui revient de prophète à prophète, de chauffette à chauffette. En fait, la situation est très simple. On part en cacahuète, à Vodazara, ce que tu veux. Dieu nous envoie un ennemi qui nous a servi. On est asservi trop, on n'en peut plus. On fait tchouva, on demande à Dieu, aide-nous. Il nous envoie un chauffette. Tout va bien pendant l'époque de la vie du chauffette. Et une fois que le chauffette meurt, eh bien, on retombe dans tous nos travers. Et rebelote, on a un ennemi qui vient, qui nous a servi. On n'en peut plus, on demande pardon à Dieu. Il nous sauve avec un chauffette. Le chauffette, tout va bien quand il est là. Quand il n'est plus là, et voilà. Voilà le schéma, si vous voulez, du livre de Shoftim. Et donc, pendant cette période-là, eh bien, qu'est-ce qui se met en avant? Eh bien, se met en avant la particularité d'abord de chaque tribu, mais surtout, eh bien, le fait qu'Am Israël, tant qu'il n'est pas réuni, n'arrive pas à, s'exprimer véritablement. Il va falloir attendre la fin du livre de Shoftim pour laisser la place à ce qu'on appelle Pilegesh Bagiva. Alors, Pilegesh Bagiva, eh bien, c'est intéressant parce que les événements qui sont mis en avant tant dans l'histoire de Pilegesh Bagiva, dans l'histoire de Pesel Micha, ainsi que dans l'histoire de Shimshon, eh bien, sont les événements qui sont évoqués à la fin du livre de Shoftim, alors que chronologiquement, ils se passent au début. Alors, pourquoi est-ce que c'est évoqué à la fin? Pour te dire que c'est vers là qu'on tend. C'est-à-dire que l'histoire de Pilegesh Bagiva, qui est la dernière histoire du livre de Shoftim, ça va être la première fois où l'âme Israël va s'unir. Et donc, elle est marquée à la fin du livre de Shoftim pour montrer qu'on s'avance vers une union de la Mamlacha, de la royauté de Shaul et ensuite de David. Même si, physiquement, concrètement, cette histoire s'est passée au tout début du livre de Shoftim. Comme l'histoire de la statue de Micha, qui voit le départ de la tribu de Dan, de sa zone qui lui avait été réservée dans la région de Dan, donc de Tel Aviv, pour remonter vers le nord d'Israël et aller conquérir, eh bien, tel, ce qu'on appelle aujourd'hui Tel Dan, dans le doigt de la Galilée. Donc, nous avons ici deux événements qui sont extrêmement premiers, mais qui sont marqués à la fin. L'histoire de Shimshon également. Shimshon, justement, vient de la tribu de Dan, et comme on vient de le dire, si il se balade Ben Tzor'al et Ben Eshtahol dans l'endroit donc, de la tribu de Dan, eh bien, c'est la preuve qu'ils ne sont pas encore montés dans le nord d'Israël. Donc, c'est là aussi une histoire qui est première. Donc, voilà, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, tout simplement que pendant ces 369 ans, Shiloh était une capitale, mais que personne ne connaissait. Alors, si je devais faire une mauvaise comparaison, je dirais que tout le monde pense que la capitale des Pays-Bas, c'est Amsterdam, alors que c'est pas Amsterdam. Bon, mais ça veut dire, quoi qu'il en soit, eh bien, Shiloh n'est pas revalorisé, n'est pas valorisé tout court, et Am Israël ne s'y balade pas vraiment. Il va falloir, justement, attendre la fin de Shiloh pour comprendre qu'il y avait quelque chose là-bas. Pour comprendre qu'il y avait quelque chose là-bas, et la fin de Shiloh, eh bien, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin, à la mort de Élie, eh bien, Shmuel Hanavi prend la domination du peuple juif. Il n'est plus chauffette, il est Navi, mais il se comporte comme un chauffette, et comme un Navi, et comme un Kohen, et comme un Meller, en fait. Shmuel Hanavi va prendre la direction du peuple juif, comprenant que la situation, eh bien, c'est même pas paritétie, c'est très stétie, c'est-à-dire comprenant que la situation où chaque tribu se drive tout seul et s'unit de temps en temps quand il y a un ennemi qui les attaque, ce n'est plus possible, il faut réunir le peuple juif. Et donc, on se dirige vers la Malchoute. Le jour de la mort de Elie HaKohen, le Mishkan va commencer à bouger. Et de Shiloh, eh bien, le Mishkan va être reconstruit, va être déplacé à Nov. Nov, c'est pas loin de Shiloh, c'est à côté également, dans la bordure de Jérusalem actuelle. Eh bien, Nov Ir HaKohanim devient également la centralité du Mishkan. Et le Mishkan de Nov va être détruit, va résister pendant 13 ans, et il va être détruit par Shaul HaMelech. Shaul HaMelech qui pense que les Kohanim de Nov vont cacher et aider David, et donc va détruire Nov, Ir HaKohanim, y compris le Mishkan de Nov. Le Mishkan va donc ensuite, eh bien, transiter par la ville de Givon, et il va rester là-bas pendant 44 ans, jusqu'à finalement, pendant toute la période, en fait, du règne de David, jusqu'au moment où Shlomo HaMelech va prendre sur lui de créer le premier Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Pendant la période de Shmuel, pendant la période de Shaoul et de David, eh bien, nous mettons en place les bases de l'unité d'Israël autour de la royauté. C'est d'abord Shmuel qui va changer la donne en se baladant de tribu en tribu pour montrer qu'il y a une autorité qui se balade partout, qui fait que toutes les tribus sont reliées autour de cette identité-là. Et évidemment, lorsqu'il va couronner Shaoul, eh bien, pour la première fois, Am Israël est réuni sous la bannière d'un roi, le roi Shaoul de la tribu de Binyamin. Alors, Shaoul, vous savez, vous connaissez comme moi son histoire, il fait la guerre contre Amalek. Il fait la guerre contre Amalek, mais cette guerre, il la gagne, mais il ne la termine pas. Et donc, eh bien, sa royauté, qui n'aura duré finalement que 2 ans, est donnée au roi David. Est donné à David, qui va dans un premier temps régner uniquement sur la tribu de Yehuda, parce que les descendants de Shaoul continuent à prétendre à la royauté. Son descendant, c'est son fils Ish-Boshet, qui lui aussi régnera pendant 2 ans sur une partie du peuple juif. David, à la mort de Ish-Boshet, David qui était le meilleur ami de Jonathan, fils de Shaoul, frère de Ish-Boshet, eh bien, à la mort de ces derniers, à la mort de la maison de Shaoul, eh bien, prend le pouvoir est couronné par toutes les tribus d'Israël et décide de réunir le peuple juif. Comment David peut-il réunir Am Israël? Eh bien, David comprend qu'on a besoin tout simplement d'un ethos fondateur collectif. Et donc, il ne s'agira plus d'aller maintenant être chaque tribu dans sa zone. Il faut conquérir une ville ensemble qui, pour l'instant, justement, n'a pas été conquise, donc qui n'appartient à personne, pour devenir la ville qui sera pour tout le monde. Cette ville, vous l'aurez compris, c'est la ville de Yerushalayim. Jérusalem, jusqu'à présent, n'a pas été conquis par Yehoshua, par les Shoftim. C'est encore une ville cananéenne dirigée par les Jébuséens, Yevusim, qui va être conquise par David. Alors, comment David va conquérir Jérusalem? Eh bien là, c'est toute une histoire. Car David, fraîchement couronné, sait qu'il n'a pas le temps de tenir un siège à Jérusalem. Or, Jérusalem, eh bien, est entourée de murailles, et non seulement naturel, mais également de murailles construites par les Jébuséens. En d'autres termes, eh bien, il est très très difficile de prendre Jérusalem. David n'a pas le temps de tenir un siège pour affamer la population. Il doit faire une blitzkrieg, une guerre éclair. Et pour cela, il va réussir à trouver la faille par laquelle l'eau de la source du Gihon, eh bien, évacue la ville. C'est dans cette source-là, dans cette faille naturelle, qu'il va faire rentrer Yoav ben Tseruya avec ses hommes. Et c'est de l'intérieur que Yoav va réussir à ouvrir les portes de la ville, si bien que la conquête de Jérusalem, eh bien, durera 5 mots dans un verset dans le livre de Samuel, Shmuel, qui nous dit « Vaïkar David et Metsudat Sion » et David prit la forteresse de Sion. C'est-à-dire, et c'est à ce moment-là que David devient le roi d'Israël après avoir réuni le peuple autour de Jérusalem. À ce moment-là, eh bien, il faut bien se dire que, bien que le Mishkan était tantôt à Shiloh, ensuite à Nov et à Givon, eh bien, ça ne veut pas dire que Aaron Abrit se trouvait à ces endroits-là. Aaron Abrit, comme vous le savez, a d'abord été perdu dans un combat contre les Philistins, et donc s'est retrouvé Bezdeh Plechtim pendant 6 mois, et ensuite a été à Kiryat Yearim, ensuite a été à d'autres endroits, pour finalement être ramené par David à Jérusalem. Il est le premier à déposer Aaron Abrit Behar Amoria. Pour l'instant, pas dans le Beth Amikdash, pas dans le Mishkan non plus. Har Amoria est vide. Aaron Abrit sera déposé là-bas dans une tente, attendant la construction du Beth Amikdash par Shlomo. Mais ça, c'est une histoire que vous connaissez déjà. Et en cela, nous venons de terminer l'histoire du Mishkan. Après être passé donc sur l'histoire du Mishkan, l'histoire du Beit Rishon, l'histoire du Beit Sheni, eh bien, nous pourrons commencer, je ne suis pas certain, la semaine prochaine, en fonction des nettoyages de Pessah, mais si pas la semaine prochaine, eh bien, nous recommencerons après Pessah, en nous projetant, cette fois, nous reprenons dans le bon sens, et nous parlerons de l'histoire des Chachmei Mishnah, après la destruction du second temple, ça on verra après les fêtes a priori. שבוע טוב לכולם וחודש טוב.